Et comme tous les jours, on commence avec le journal du soir. Hélène Roussel, bonsoir Hélène.
Bonsoir.
L'essentiel de ce lundi de Pentecôte commence avec une image. Hélène, 15 000 personnes rassemblées au Sable d'Olonne ce matin. Immense hommage aux trois sauveteurs de la SNSM morts noyés vendredi dernier. Et sinon,
eh bien, des messages antisémites et des menaces taguées cette nuit sur la maison de Latifah Ben Ziaten. Contre la violence, le combat de sa vie et l'émotion d'un de ses fils dans ce journal. Dans l'actualité encore de cette fin de journée, deux enfants fauchés à Lorient, le conducteur toujours en fuite. Massacre au Mali, une centaine de morts, un village d'Ogon quasi rasé. L'enquête explosive au Brésil, Lula serait-il victime d'un complot? Et puis l'éditeur d'Emmanuel Bayamaktam, plus que ravi, prix du Livre Inter cette année.
À 18h15, un jour dans le monde sur l'Everest. Ce soir, vous avez été frappé comme nous peut-être par cette image d'embouteillage sur la ligne de crête près du sommet. On y revient parce que le bilan de cette saison himalayenne est de 11 morts. C'est beaucoup trop de monde là-haut, trop d'accidents. Beaucoup trop de monde aussi qui s'imagine capable d'un sommet à 8000. À quel moment a-t-on oublié le risque, la nature là-haut? On y vient avec le premier invité dans un instant. Nous sommes aussi en Bolivie pour parler des 36 langues autochtones de ce pays. Et puis 19h20, le téléphone sonne. Vos vacances ce soir, vos vacances décarbonées. C'est devenu un mode de vacances. Ceux qui ont la chance de partir, bien sûr, le refus de l'avion. Quand on veut être conforme à ses idées, à l'urgence climatique aussi, nouveau mode de tourisme, est-ce qu'on peut compenser finalement ou est-ce que tout ça est un problème de riches? 01 45 24 7000.
France Inter. La corne de brume en mer, le silence et les fleurs blanches sur terre. L'hommage est impressionnant, 15 000 personnes rassemblées au Sable d'Olonne ce matin en mémoire aux trois sauveteurs de la SNSM morts noyés vendredi dernier en pleine tempête et alors qu'ils allaient porter secours à un pêcheur. Grégory Julien de France Bleu, Loire-Océan, a suivi la marche pour France Inter.
Et en tête du cortège, une soixantaine de sauveteurs en mer, parmi eux, veste orange, Roxane, venue de La Rochelle.
C'est important d'être là. Solidaire avec les familles. Vous n'êtes pas tout seul, on est une grande famille à la SNSM. Malheureusement, les larmes auront toujours le goût de l'eau salée.
Des sauveteurs en mer, main dans la main, unis dans la douleur et applaudis tout au long du parcours. Derrière eux dans le cortège, des anonymes, les yeux rougis, la plupart avec des trémolos dans la voix.
Nous, ce qu'on a fait, c'est que vous voyez, on a choisi une rose de chaque couleur. Par marin, le CD.
Tous ces hommes qui s'en vont au risque de leur vie pour essayer de défendre les autres et les secourir quand ils sont en difficulté, c'est des belles personnes.
C'est une douleur qui va nous rester à un moment gravée. C'est terrible.
Au large, il y a également l'hommage des marins pêcheurs avec une soixantaine de bateaux regroupés à hauteur du lieu du drame. Corne de brume, fumigène, les pêcheurs rendent hommage aux trois sauveteurs disparus.
Ben, c'est histoire d'être solidaire, quoi.
C'est des gars qu'on connaît depuis tout le temps. Moi, personnellement, je les connais depuis toujours, quoi.
On a perdu des camarades.
Hein. La moindre des choses, c'est d'être là pour eux aujourd'hui.
Tous ont ensuite déposé une rose au pied des rochers, la même où le bateau s'est échoué. Les Sables d'Olonne, Grégory Julien, France Bleu Loire-Océan pour France Inter.
Et puis information France Inter, Emmanuel Macron va bien présider un hommage national. Ce sera ce jeudi matin, il se rendra pour ça aux Sables d'Olonne. Le président de la République qui devrait nommer les trois victimes chevaliers de la Légion d'honneur à titre posthume. Un enfant de 10 ans est mort, un autre de 7 ans est toujours en urgence absolue à l'hôpital. Deux petits cousins fauchés hier après-midi sur un trottoir de Lorient. Le conducteur n'a pas été retrouvé, pas encore. Les recherches se poursuivent, mais il a été identifié. Il s'agit d'un jeune homme de 20 ans qui avait emprunté la voiture de sa mère et roulait sans permis, visiblement une habitude. Hier, il était poursuivi par les gendarmes après avoir refusé un contrôle routier quand il a percuté les deux enfants. Lui et sa passagère ont pris la fuite à pied.
Latifah Ben Ziaten, dont le fils militaire est l'une des victimes de Mohamed Merah, a été une nouvelle fois menacée.
Oui, sauf que cette fois, c'est jusqu'à son domicile. Latifah Ben Ziaten s'est réveillée ce matin avec des tags sur les murs de sa maison de Sotteville-lès-Rouen, en Seine-Maritime. Menaces et messages antisémites. Vous avez entendu son témoignage dans le 13h de France Inter tout à l'heure. Ce soir, c'est l'un de ses fils, Naoufal Ben Ziaten, qui réagit.
C'est ce matin, en se levant, elle a ouvert ses volets, puis... En pleine de la figure, elle voit « Vive Merah ». Voilà. Et c'est des tags, c'est horrible. C'est « On va t'avoir, on va te faire la peau ». Voilà ce qu'on retrouve chez moi, là. J'étais parti sur une thérapie où on était en train de se remettre. Et là, boum, là, ils sont venus dans la propriété privée. Comment ils ont trouvé l'adresse? Comment ils ont fait le jeu? C'est l'insécurité totale.
Charlotte Pierret, bonjour.
Bonjour.
C'est vous hein, qui avez pu joindre le fils de Latifa Ben Ibn Ziaten qu'on vient d'écouter, visiblement très ému, même sous le choc. Hein.
Sous le choc tant du fait de la violence des menaces que du fait qu'elles ont été taguées sur les murs et le sol de la maison familiale. Depuis la mort de son fils Imad en 2012, Latifa Ibn Ziaten arpente la France, les écoles, les prisons, les quartiers difficiles, entend prôner un message de paix, rappeler que non, le djihadisme ce n'est pas l'islam. Pour ce message, elle a déjà fait l'objet de menaces, de nombreuses menaces sur les réseaux sociaux, sur le répondeur téléphonique de son association, dans les rues de Carcassonne ou même au Maroc où elle se rend parfois sur la tombe de son fils. Alors une nouvelle fois, Latifa Ibn Ziaten a donc été entendue par les enquêteurs, a déposé plainte pour menaces de mort, apologie du terrorisme, violation de domicile, son domicile où jusqu'à présent elle ne bénéficiait pas d'une protection permanente. C'est seulement lors de ses déplacements en France, dans le cadre de son association, qu'elle est systématiquement accompagnée par deux officiers de police.
Et le ministre de l'Intérieur a apporté lui aussi son soutien à la famille. Charlotte Pierret, merci. Pour la deuxième fois en trois mois, des enfants de djihadistes français ont été rapatriés, 12 orphelins ou mineurs isolés recueillis dans des camps de déplacés, remis par les Kurdes de Syrie et qui ont atterri à Paris ce matin. On en reparle dans le journal de 19h tout à l'heure. On reviendra aussi sur ce massacre cette nuit au Mali, un village dogon quasiment rasé dans la région de Mopti. Une centaine de morts au moins, les témoins parlent d'hommes armés qui ont tiré, pillé et brûlé. Le gouvernement soupçonne des terroristes sur fond de violence entre l'ethnie Dogon et les Peuls. Plusieurs centaines de morts déjà depuis le début de l'année. En bref, encore et toujours sur fond de tensions intercommunautaires. On se souvient l'an dernier en Inde de cette petite fille musulmane de 8 ans, violée, tuée par plusieurs hommes. L'affaire avait provoqué des manifestations monstres dans tout le pays. Ces agresseurs, des hindous, étaient jugés aujourd'hui. Ils échappent à la peine de mort, mais 3 d'entre eux ont été condamnés à la prison à vie.
Un dossier potentiellement explosif au Brésil. Hélène, et si Lula avait été victime d'un complot?
L'ancien président de gauche, condamné pour corruption et envoyé en prison, a toujours dénoncé une machination politique contre lui. Destinée, disait-il, à l'empêcher de se représenter, lui barrer la route à lui, donc, et à son parti des travailleurs. Et si c'était vrai? Le site d'investigation The Intercept a mis la main sur tout un tas de messages privés échangés entre les procureurs et le juge. Un juge aujourd'hui ministre dans le gouvernement d'extrême droite de Bolsonaro. Son enquête anticorruption, Lava Rato, lavage express en portugais, n'était peut-être pas toute blanche. En tout cas, si tout cela est avéré, ce sera, dit-on déjà au Brésil, le plus grand scandale de l'histoire de la République. Correspondance pour France Inter, Jean-Mathieu Albertini.
Les conversations publiées par le journal révèlent notamment que le juge Sergio Moro, responsable de la condamnation de Lula, est aujourd'hui ministre de la Justice du gouvernement Bolsonaro, a directement conseillé le procureur en charge de l'affaire. D'autres conversations montre les stratagèmes des procureurs pour empêcher la réalisation d'un interview de Lula, alors en prison, par crainte qu'il ne puisse aider à faire élire son successeur Fernando Haddad. Les responsables de l'opération Lavage à taux mis en cause, mais aussi les 3 fils du président Bolsonaro, ont tous réagi, dénonçant des fuites criminelles, niant toute irrégularité ou s'attaquant vertement au journal The Intercept. Pour les soutiens de l'ex-président, les révélations sont la preuve de la persécution dont il aurait été victime pour l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle. Sur Twitter, Fernando Haddad parle d'une grande farce révélée au monde et annonce que des procès devraient être annulés. À Rio de Janeiro, Jean-Mathieu Albertini pour France Inter.
C'est toujours le même refrain en ce moment chez Donald Trump, les droits de douane. Cette fois, le président américain vise la France. Sur la chaîne CNBC, il a répété son intention d'imposer plus de taxes sur les vins français. Car, dit-il, le vin américain à l'entrée dans l'Hexagone est victime d'une concurrence déloyale. Certains y verront certainement un signe, mais le chêne planté à la Maison Blanche l'an dernier par Donald Trump et Emmanuel Macron est mort. On se souvient encore des deux hommes, pelle dorée à la main pour représenter l'amitié entre les deux nations. Bref, si ça ce n'est pas du symbole.
Allez, Emmanuel Macron qui était aujourd'hui à Ornans et dans le Doubs pour le bicentenaire de la naissance de Gustave Courbet.
Et pour l'occasion, le président a inauguré une exposition consacrée au peintre. Il a aussi rencontré des jeunes qui ont testé le pass culture, 500 euros offerts pour des loisirs culturels. Visite suivie pour nous par Laurence Perron.
Emmanuel Macron aime l'histoire et ses télescopages avec la modernité. Commémoré au milieu du Doubs, le bicentenaire de Courbet, honoré par l'artiste chinois Yan Pengming, lui offre l'occasion de réaffirmer sa vision de la France.
Il n'y a pas celui ou celle qui aimerait son territoire et celui ou celle qui aimerait les grandes idées sans ancrage. Et là aussi, j'aime cet en même temps, cet art d'être français, c'est celui auquel nous voulons redonner force.
Un discours très lyrique, ouvert pourtant par une petite culbute.
Nous nous retrouvons là, pour ce bicentenaire de la naissance de Gaston Courbet, de Gustave Courbet.
Quelques petits bains de foule avant la rencontre avec une quinzaine de jeunes qui ont expérimenté le pass culture qui sera généralisé à l'automne.
Donc sur le pass culture, quelque chose qu'on n'a pas encore vu, c'est des affaires d'art parce que ça coûte très très cher.
Alors, il y a les instruments de musique qui sont prévus.
Le ministre de la Culture, Franck Riester.
Mais c'est à réfléchir.
L'argent ne fait pas tout, tempère Ming.
À l'époque, je suis très pauvre. Je trouvais des peintures acryliques dans des magasins de bricolage. Voilà, les moins chers possibles. Le noir et blanc, c'est le moins cher. Au départ, c'est par une économie.
Rejoint en cela par le président.
Voilà. Pour moi, c'est pas simplement. Ce n'est pas du tout un outil de consommation. Et donc, c'est aussi votre manière de garder ce rapport et ces questionnements que vous avez eus qui est le plus important.
Et de conclure en avouant qu'il aurait dû parler plus de culture lors du grand débat national.
Laurence Perron à Ornans dans le Doubs avec Gilles Gallinaro à la technique. C'est une grande journée pour France Inter. Vous n'avez pas pu passer à côté. Le prix du livre Inter décerné cette année à Emmanuel Bayamaktam. Le titre Arcadie aux éditions POL. Un roman sur l'amour, pas du tout comme les autres. C'est libertin et libertaire, subversif et malin, drôle, parfois gênant, bourré de tendresse et de soleil. Frédéric Boyer, le PDG des éditions POL, est ravi, évidemment.
C'est un prix de lecteur, c'est un prix de débat, de discussion, et donc ça donne une valeur à ce prix qui est très précieuse. Et pour le livre en question, Arcadie d'Emmanuel Bayamaktam, moi je suis d'autant plus heureux que c'est un auteur que Paul Otchakowski-Laurence a publié depuis une quinzaine d'années, qui a rencontré progressivement ses lecteurs, qui a suscité un intérêt de plus en plus, et ça vient effectivement consacrer un peu tout ça. On sait maintenant que ce prix a un écho dans le public vraiment particulier, et on doit réimprimer le livre dans la foulée, on prévient les libraires, donc pour nous, et pour l'auteur et pour le livre, c'est une chance de poursuit sa rencontre avec de nouveaux lecteurs. Les livres, parfois, n'ont pas assez de temps pour trouver leur destin. Ça donne une longévité aux livres et c'est vraiment important aujourd'hui.
Frédéric Boyer des éditions POL, il répondait à Jacqueline Pétrose. Enfin, pour ceux qui ont aimé ou vont aimer Arcadie, sachez qu'Emmanuel Bayamaktam en a écrit beaucoup d'autres, une dizaine de romans au total. Vous la trouverez aussi sous le pseudo Rebecca Liguieri. Voilà, c'est dit. On apprend à l'instant, ça y est, c'est officiel, Tony Parker, le basketteur français, met un terme à sa carrière. J'ai beaucoup travaillé, énormément reçu, c'est une aventure incroyable, vient-il de tweeter. Tony Parker, on peut le rappeler, quadruple champion de NBA avec les San Antonio Spurs. Il était depuis en 2013 avec les champions d'Europe, avec l'équipe de France. Donc Tony Parker arrête sa carrière sportive. Enfin, ça pourrait être une bonne blague. Elle croit aller aux toilettes et ouvre l'issue de secours de l'avion. Information du Parisien. Et si, si, ça s'est vraiment passé.
Sérieusement.
Vendredi soir, avec la passagère d'un vol entre Manchester et Islamabad, l'avion allait juste décoller. Quand du coup, évidemment, la porte de secours ouverte, eh bien, les toboggans se sont gonflés.
D'ailleurs, est-ce qu'on va aux toilettes quand l'avion va décoller?
C'est la question que je me suis posée. Voilà. Bon, bah, finalement, tous les passagers ont dû débarqué, le vol a pu décoller que le lendemain matin. Parfois, vaut mieux se retenir.
Voilà, comme vous dites, ou je sais pas, regarder correctement ce qui a marqué sur la porte, c'est bien aussi.
Avec exemple.
Allez, Hélène Roussel pour le journal, merci beaucoup.